Ça y est, c'est parti en principe.
Voilà.
Bon, alors, bon, attendez, je vais pas rester debout parce que je suis fatigué. Merci.
Hop, ça vous serait plus près.
Voilà. Et puis mon ami Fidel va bien aussi s'installer.
On l'installera par ici. Vous en inquiétez pas.
Alors, la différence entre les deux, c'est que lui a été arrêté au lycée, le jour du bac. Et la résistance, il en a fait finalement qu'en camp de déportation. Hein. Je sais qu'il en a fait, puisqu'il il a fini par être clandestin, il vous le dira lui-même. Dans son camp de déportation, il a eu la chance de s'en tirer. Hein. Quand même, parce que normalement, il aurait dû faire comme beaucoup, y rester. Tant mieux, c'est un charmant copain. Il était un peu plus jeune que moi, il l'est toujours d'ailleurs, évidemment, puisqu'ils ont été arrêtés le jour du bac de 44, tout le monde a un chien, oui. Moi je suis parti en 41, et j'étais donc étudiant à Lyon, quand on s'est mis à faire de la résistance, presque... Faire de la résistance, c'est bien gentil, hein, mais je veux résister, comment hein? Alors, il faut trouver des gens qui soient d'accord, et puis éviter les gens qui ont, comme je l'ai vu, dit qu'ils étaient d'accord pour trahir par la suite. J'ai un bon copain qui a laissé sa peau, en ayant créé un réseau qui a été complètement détruit par ce traître, qu'on a abattu par la suite. Pas moi qui suis allé. C'était le meilleur copain de ce copain, son camarade d'étudiant en médecine, qui est allé l'abattre. C'était nécessaire. Mais c'est pas des boulots bien valorisants. Hein. Mais c'était la seule punition possible. Et méritée. Et méritée. Cet ami, parce que c'était un ami, qui est devenu médecin, il a mal fini, ses dernières nouvelles, il venait de perdre, il avait deux fils, un qui s'est suicidé, l'autre qui s'est tué en voiture. Malheur. Enfin, c'est comme ça. Et moi, j'ai eu beaucoup plus de chance. J'ai eu trois enfants, ils sont tous en bonne santé.
Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu dire aux élèves, pour vous, enfin vos souvenirs, par exemple, de la défaite 1940?
Ah, ben, la défaite de 40, ben oui, c'était la défaite. Les Boches arrivent, ils envahissaient, c'était pour eux presque la promenade, ils n'ont pas eu beaucoup de résistance devant eux. Il faut bien dire une chose, c'est que les Français ne voulaient pas se battre. Hein. Bonjour. L'esprit n'était pas à la guerre. De toute façon, mal préparé. On avait des armes, on n'a pas su s'en servir. La guerre était déclarée entre le 4 septembre 1939, je crois que c'est ça, 4 septembre. Et on s'est vraiment battu qu'à partir du jour où les Boches qu'on attendait contre la ligne Maginot, on était tranquille avec la ligne Maginot. Seulement, comme Hitler s'est toujours moqué des principes et des traités, de passer par la Hollande et la Belgique, c'était tellement plus facile. On aurait dû y penser un peu. Mais enfin, ça a été... Alors il y avait des forces anglaises qui étaient dans la région de Dunkerque qui ont fait ce qu'elles ont pu. Nous, on y a vite accouru. Mal préparé, on a fait ce qu'on a pu. Ça a été un désastre. Et les Anglais ont rapatrié le maximum de leurs troupes pour parce qu'ils savaient ce qui les attendait par la suite. Ils ont vu ça. Et nous, ben, on s'est repliés en France. Et on a attendu les motards allemands. Ils sont arrivés en moto, comme des touristes. Ma foi, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La plupart des gens avaient fui sur les routes en entassant ce qui Ils croyaient que ça allait se battre partout. Ça s'est pas battu partout. Ça s'est battu qu'un peu dans l'Est. Et puis voilà. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a repris les voitures pour revenir chez nous. Mon père, qui avait fait la guerre de 14, n'avait pas voulu quitter sa maison. Et il est resté avec ma mère. Mais moi, il m'avait expédié. Il m'a dit, ben oui, pars. Tu as 17 ans, peut-être qu'ils vont te faire prisonnier. Enfin, non, j'ai pas été prisonnier. Mais après, j'aurais pu l'être, parce que quand j'ai attaqué la vie clandestine du résistant, mais clandestine qu'à moitié, c'est ça qui est difficile à vivre. C'est que, bon, vous êtes étudiant, vous allez en fac et vous faites de la résistance. Comment faire, hein? Ben, il faut pas se faire coincer, d'ailleurs. Il faut pas trop en parler, il faut pas en parler. Il faut en parler à ses meilleurs copains dont on est vraiment sûr. Et encore, il y en a qui ont été trahis. C'était difficile. Et puis, il fallait avoir des armes. Ça aussi, ça a été difficile. Alors, le pays que j'habitais, le petit coin de pays à Bosson, là, c'était la porte d'entrée du maquis, la principale, puisque c'était sur la route 84, Lyon à Genève, et ça a été l'endroit de la principale attaque des Allemands quand ils ont voulu nous réduire le 11 juillet 44. Le 11 juillet 44, on était en armes, on avait... ces armes nous avaient été parachutées parce que... l'armée secrète que mon frère avait créée, qui comprenait Neuville-sur-Rhin, Saint-Martin-du-Mont-Poncin, avait reçu son parachutage d'armes pour armer une centaine d'hommes. Ces armes, c'était des... Il y avait essentiellement des mitraillettes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec des mitraillettes? Vous avez vu des soldats se battre avec des mitraillettes dans les attaques des Allemands ou des Français à n'importe où? Ben non, c'est pour les combats de rue, les mitraillettes. Et encore. Puis surtout, celle-ci, c'était de la quincaillerie, quoi. C'était, vous laissiez tomber une mitraillette, elle se mettait à cracher ses balles n'importe où. Il y a eu de nombreux accidents. Et la seule raison que je puisse donner, ce que je pense qui était la seule et la vraie, c'est que les Anglais se méfiaient des résistants français parmi lesquels il y avait des communistes. Et les communistes, on sentait que c'était surtout pour aider la Russie et établir autant que possible le communisme partout. Et m'envoyer des armes, bien sûr, pour la résistance contre les Allemands, c'était bien, mais si ça se tournait contre autrement après, c'est probablement ce qu'il y avait. Je ne l'ai jamais lu nulle part, mais ça paraît tellement évident que je le pense. Je le pense, c'était ça, parce que les mitraillettes Sten, c'est de la quincaillerie, quoi. À louper un bonhomme à 10 mètres avec ça. Alors, les explosifs, oui, le plastique, ça, c'était une chose qui était utile. Vous entendez mal, vous voulez que je parle plus fort?
C'est le bruit des voitures.
Ah, oui, d'accord. Je ne sais pas ce que fait mon ami. Enfin, bref, il vous racontera après son affaire. Puisque lui, il a peu fait de résistance, mais il est téléporté. Il est téléporté par un salopard de miliciens qui était au bahut, quoi. Voilà, avec ses collègues. Alors que moi, au bahut, chantais Maréchal Vieux Gaga, d'accord, c'est tout ce que c'était, se résumait à ça, ma résistance au lycée, mais puis une fois étudiant, ça s'est quand même un peu étoffé. Et pour finir, ça l'était vraiment. J'ai fait partie d'un réseau qui a été reconnu, qui avait été créé en août 40 à Bordeaux par un homme, un colonel qui s'appelle Giovetti, qui est mort depuis longtemps, et une femme, mademoiselle, comment est-ce qu'elle s'appelait, je l'appelle par le nom qu'elle nous avait donné quand on l'a rencontrée, c'était un faux nom, parce qu'elle sont, oui, Louise Lemab, son vrai nom, mais elle s'est fait connaître, elle s'est donné le nom de Françoise. Et moi, je l'ai toujours appelée Françoise jusqu'à ces derniers temps, parce que depuis un an, je ne sais plus ce qu'elle est devenue. J'ai essayé, on se téléphonait, dernièrement, il y a 6 mois, j'ai téléphoné, plusieurs fois, on ne m'a pas répondu, ce n'était plus elle qui était au téléphone, c'était plus son mari, je crois qu'il est mort, et ses enfants sont ailleurs.
J'ouvre, hein.
Ah, c'est toi.
Vas-y. Bonjour.
Bonjour.
Je t'en serai prof.
Hein? C'est bon.
Tu vois, c'est prof.
Qu'est-ce que c'est ici? J'ai commencé mon laïus. Je continue ou bien si tu veux prendre?
Non, je te prie.
Bon. Alors, on m'a demandé comment j'étais devenu résistant. Ben voilà, ça s'est fait comme ça. On écoutait la radio de Londres et puis c'est arrivé cette jeune femme qui avait créé ce réseau avait été arrêtée par la Gestapo à Limoges. Ça faisait déjà un moment que la Gestapo les poursuivait avec son collègue, le colonel Giovetti. Et ils avaient laissé des traces un peu partout. Et puis finalement, elle était à Limoges et a été mise en prison. Mais auparavant, comme c'était un réseau franco-britannique, elle avait été avec son collègue, avec ce colonel Giovetti, elle avait été emmenée en avion en Angleterre pour être entraînée par l'intelligence service. Et j'aime autant vous dire que ça s'est connu, hein, parce que une fois en prison, elle a simulé d'une façon parfaite la crise d'appendicite, avec la fièvre, avec tout, tellement parfaite que même le chirurgien de Limoges l'a opérée. Mais le lendemain de l'opération, ou le surlendemain, elle a foutu le camp de sa chambre, avec en chemise de nuit, avec la fauche et un manteau dans un coin, et puis elle s'est sauvée. Et puis elle a tapé dans toutes les portes qu'elle a rencontrées, et finalement, elle a rencontré une dame qui vivait seule, et qui était d'esprit résistant, mais qui n'en faisait pas parce qu'elle ne pouvait pas, mais qui était venue à Lyon, chez la dame, la mère de mon copain, chez qui je prenais pension, Courviton, et elle savait qu'on était vigoureusement résistants. Alors elle lui a dit, écoutez, allez donc chez ces gens-là, ils reçoivent un tas de gens qui sont vraiment du bon côté, et ils vont vous tirer d'affaire. Alors elle s'était décorée les cheveux à l'eau oxygénée, alors qu'elle était très brune, et puis avec des lunettes noires, on a vu arriver une pauvresse, on lui aurait donné 4 sous dans la rue, tellement elle était mal habillée. À l'époque, ça ne tirait pas conséquence. Tout le monde était. Il y avait peu de gens bien habillés. C'était plutôt ceux qui étaient bien habillés qui attiraient l'attention. Ce n'était pas ceux qui étaient mal habillés. Et alors, elle arrive. Voilà, comment tu t'appelles? Ben, je m'appelle Françoise. Bon, ben, c'est Françoise. Pour moi, c'est resté Françoise. Alors, et pendant 15 jours, on est aux copains. Hein, pas un mot. Hein, vous êtes résistant. Oh, ben, vous. Oh, d'esprit, hein, vous savez, on n'est pas tellement pour les Allemands, hein. On a fait les idiots, et on commençait déjà pourtant à faire des petites choses, mais pas grand-chose, en vérité. Et puis finalement, au bout de 15 jours, elle a dit, écoutez, ça va bien, hein, moi je suis, vous avez raison, vous vous méfiez. On avait déjà, comme on se réunissait, on avait déjà mis derrière le Judas des portes lyonnaises, qui sont des petites barres de laiton qui ferment derrière ou qui ouvrent quand on veut se parler. On avait mis un petit papier blanc dans un coin, gros comme ça. Et quand on arrivait pour devant cette porte, on regardait toujours si le papier y était toujours. Parce que les miliciens, quand ils arrêtaient des résistants dans un endroit, la première chose qu'ils faisaient, ils restaient dedans, ils faisaient pas de bruit, ils mettaient en joue les gens qui y étaient, et ils attendaient que les gens arrivent, et hop, par ici la bonne soupe, on arrêtait tout le monde. Et comme ça, ça marchait, ils arrivaient à arrêter un réseau presque complet quelquefois. Alors nous, quand cette brave Françoise s'est pointée, on a enlevé le petit papier blanc, alors il y a des copains qui se sont dit, ouh là là, ça sent mauvais, hop, on repart. Et puis on l'a remis 15 jours après, quand on a été à peu près certain que c'était du bon. Et on a, du coup, eh ben, on est rentré dans ce fameux réseau qui s'appelait réseau. Bon, je ne me rappelle plus le nom du réseau maintenant. C'est vrai quelque chose. C'est vrai qu'on n'en parlait jamais. Ouais. Louise Le Mab. C'était une sacrée bonne femme. Sacrée bonne femme. Ouais. Alors, évidemment, on l'a aidé à retrouver son réseau. Elle nous a dit, je ne peux rien faire, j'attends qu'on me retrouve. Et finalement, son réseau l'a retrouvé. On lui a signalé qu'on l'attendait. Alors, elle s'est demandé si c'était vrai ou pas vrai. Il faut toujours se méfier. Alors, on avait déjà une arme ou deux. Alors, on a mis le gros pétard dans la poche en disant, on t'accompagne. Il avait rendez-vous dans la région de la Part-Dieu. À l'époque, il n'y avait pas encore la gare. Il y avait un grand immeuble. Elle dit, je dois rentrer dans cet immeuble. Je crois que c'est au deuxième étage. Alors, vous savez pas, si je fais signe avec le rideau, c'est que tout va bien. Si, c'est, parce que il ne faut pas connaître les gens que je rejoins. Il ne faut pas les voir. Alors, c'était des règles extrêmement strictes. Et c'est comme ça que son réseau a été bon pendant 4 ans. Et alors, au bout d'un moment, on a vu que le rideau, ça va endormir le pétard, ça va en rentre. Sans ça, on y allait pour flinguer. Je ne sais pas comment ça aurait fait. Ça avait été des miliciens, mais enfin, à la surprise, on avait une chance. On avait une chance. On n'avait jamais flingué, hein, mais enfin, là, on y allait. Parce que finalement, elle était tellement sympa, cette brave fille, qu'on était prête à tout. Puis elle aussi. Elle aussi.
Excusez-moi.
Ils ont servi considérablement leur patrie, hein. Et l'Angleterre, du même coup. Oui. Mais enfin, là, on était vraiment alliés.
Qu'est-ce que vous pensiez quand l'armistice a été signé ?
Comment ?
Qu'est-ce que vous pensiez au moment où l'armistice a été signé ?
De l'armistice ? En 40 ? Oui. Bah, qu'est-ce que vous voulez ? L'armistice, il s'est fait parce qu'il devait se faire. Que voulez-vous faire ? Quand on ne se bat pas, que tout le monde est sur les routes, que les gens crèvent de n'importe quoi sauf de se battre, sans armes, vous pouvez faire. On a dit, bon, bah, il y a l'armistice, quoi. Tout va bien, quoi. Tout va bien. Il y avait quand même 2,5 millions de prisonniers. Mais tout n'allait donc pas bien. Mais au début, on s'est dit, bon, ben, c'est comme ça, quoi. Mais c'est après, quand on a vu qu'on servait de base arrière des Allemands, qui pillaient à peu près tout ce qu'ils pouvaient, ben, c'est normal qu'on se révolte, hein. C'est normal. Alors le drame, c'était ces salopards qui s'appelaient miliciens ou archipétainistes, parce qu'il y a beaucoup de pétainistes qui ont viré de bord, hein, quand ils ont vu comment ça se passait. Pétain, c'était un brave homme, mais il était beaucoup trop vieux. Moi, je savais très bien l'imiter à l'époque. Bon, hein, c'est bon, bégayait un peu comme ça, la voix. J'ai l'âge qu'il avait, alors vous rendez compte? Si je devenais je sais pas quoi maintenant milicien, moi je me vois pas.
Ouais. C'était des groupes indépendants de l'État, en fait, les miliciens.
Comment ?
Ils étaient indépendants de l'État, les miliciens. Enfin, c'était des groupes organisés comme vous, résistants.
Ah ben oui, les résistants, c'était complètement indépendants, non seulement indépendants, mais hostiles à l'État. Qui donnait toutes les clés de la France et qui soutenait des miliciens qui étaient des gaziers qui, pour de l'argent, étaient prêts à vendre père et mère. C'était des salopards, ceux-là. D'ailleurs, ils sont partis en Allemagne en 1944 tant qu'ils ont pu. Hein, et puis les autres, il y en a qui se sont camouflés, qui ont dû échapper, mais ceux qui ont été coincés, ils ont été exécutés. Hein. Parce que c'était pas la crème des gens, hein, en dehors des opinions.
Moi, la question, les miliciens. La question, autre question, c'est les miliciens.
Oui, oui, c'était pour savoir, en fait, si les miliciens, en fait, étaient engagés
était engagé par l'État.
Par Pétain.
Ouais,
oui,
par Pétain.
Oui, il y a eu des germanismes différents. D'abord, il y a eu ce qu'on appelait la Légion, qui était un espèce d'appel général. Il y avait un tel des arbres à l'armistice que quand on a reçu Pétain, même avec son grand et son âge. C'est incroyable qu'on puisse arriver à chanter des chansons comme Maréchal, voilà, devant toi, le sauveur de la France. C'est comme ça. Ça a réussi à passer. Parce que hier, les gens s'approchaient d'un seul coup, ouais, la France. Que pensait-elle après le répondement, enfin, nous, un pays important, qui était tenu, effondré, assujetti à la vie. Alors, les gens ont déboussolé. Quand Pétain a lancé son appel, il y en a un certain nombre qui ont répondu, oui, mais bon, ça met savoir à quoi s'engager. Et à partir de ça, il y a eu le service pour les légionnaires, il y a eu différents jours, et en 43, la milice, qui était l'évolution finale de cette forêt qui. Et la milice, elle était une force armée de l'État, bien entendu, qui agissait à l'intérieur du pays, parce qu'il y avait aussi une force armée qui agissait avec les Allemands, qui était la Légion Charlemagne. Cette siège à l'intérieur du pays, elle prétendait d'ailleurs être française.
Ben oui, bien sûr.
Et bon, elle était de fait un peu dédiée à l'armée allemande, mais c'était une nation française.
Pour nous, c'était des traîtres. À la fin, c'était des traîtres. Et on s'en méfiait comme de la peste. Hein. Presque autant, bien autant que les Allemands. Bien autant que les Allemands. Parce qu'ils parlaient au moins français, eux. Ils parlaient français, ils pouvaient nous espionner, ils pouvaient nous dénoncer facilement. Les Allemands étaient Allemands, déjà.
Évidemment, il y avait des... C'est eux qui nous ont arrêtés, nous, ici, au lycée, je pense de quoi. Le 5 juin 44, la milice.
Oui. Attends, je vais peut-être continuer, puis tu parles après, si tu veux.
Vas-y. Hein.
Oui, alors, bon, la résistance est donc venue petit à petit. Les gens se sont rencontrés avec les mêmes opinions anti-allemandes, anti-Pétain, anti-milices, et pro-Angleterre, forcément, puisque le De Gaulle était à Londres. La radio de Londres, on l'écoutait régulièrement. Il fallait même se méfier parce que quand la milice ou les agents de Pétain ou de la Gestapo arrivaient dans une maison pour perquisitionner, la première chose qu'ils faisaient, c'était d'appuyer sur le bouton du poste. Si ça parlait déjà la radio, s'ils avaient déjà la radio de Londres, ils étaient certains qu'ils ne se trompaient pas. Hein, remarquez qu'à peu près tout le monde l'écoutait parce que c'était le seul endroit. Avec Payot, qui parlait à Sautens, la Suisse, radio Suisse, donnait des informations correctes. Et on prenait souvent la Suisse pour avoir des informations qui corroboraient celles qu'on entendait à Londres, ou qui n'insistaient pas trop, qui n'insistaient jamais tellement, mais ils donnaient des informations assez justes à la Suisse. Ils ont eu de la chance, les Suisses. Hein. Ouh là là. Et quand on pouvait passer en Suisse, j'ai eu un client qui était devenu un copain, qui habitait pas loin d'ici, dans un petit bled dont je ne dirais pas le nom, je ne veux pas dire son nom, qui était un casse-couin invraisemblable. J'ai vu sa photo dédicacée, la photo de De Gaulle dédicacée par lui. Par De Gaulle, qui lui avait donné après la libération, parce que ce type a fait des trucs invraisemblables. Il a été pourchassé par la Gestapo sur les toits de Lyon, dans le centre-ville de Lyon. Il a échappé. Un jour, il m'avait raconté qu'il avait une pièce de moteur d'avion, de réacteur, qui venait de France. On essayait de passer aux Alliés des découvertes françaises. Et cette pièce, qui n'était pas très grosse, il l'avait dans sa voiture. Et il fallait qu'il la passe en Suisse. Et là, il y avait des émissaires qui étaient capables de l'emmener à Londres. Mais comment passer en Suisse? C'était barricadé avec des barbelés partout. Les Suisses aussi ne voulaient absolument pas que évidemment, on y serait tous allés en Suisse. Et si on avait pu. et les Allemands gardaient aussi du côté français de façon à ce que personne n'y aille. Alors, il a imaginé une chose, du côté de Collonges, il y avait une route qui rentrait en Suisse, qui avait été condamnée, parce que ça faisait un poste de garde, à garder, parce qu'il y avait quand même deux ou trois passages pour laisser passer des ambassadeurs, des trucs comme ça, mais il y en avait assez peu. Et ce poste de garde condamné, qui est un poste maintenant qui existe comme dans beaucoup d'endroits, sur les routes qui conduisent en Suisse, était au bout d'une ligne droite. Alors il avait une traction avant, où il avait cette pièce d'avion, le moteur d'avion à passer, et bien il a mis la gomme à 200-300 mètres de l'endroit où il y avait les poteaux et les fils de fer barbelés. Il a tout défoncé, il est arrivé sur la Suisse. Les Boches qui gardaient la frontière, il n'y en avait pas à cet endroit, puisque c'était infranchissable. Mais il y en avait quand même pas loin. Mais ils n'ont rien pu faire. Et la voiture a tout bousculé, était abîmée bien sûr, mais en fait, il s'est retrouvé en Suisse. Alors, il a immédiatement sorti sa pièce à cacher, il l'a cachée dans un fossé, dans un coin qu'il a trouvé. Et puis, il s'est laissé arrêter par les Suisses qui l'ont collé en prison, comme c'était normal pour eux. Puis au bout de 2-3 jours, ou 4 jours, ou 8 jours, j'en sais rien, il est peut-être pas plus de 2-3 jours. Il est ressorti, ils l'ont relâché, il a dit, écoutez, donnez-moi l'asile, si les Suisses le donnaient. Et puis la première chose qu'il a faite, c'est d'aller chercher sa pièce et de la faire passer. Voilà. C'était un sacré bonhomme, monsieur. Il est mort d'un cancer, malheureux. Mais enfin, il n'habitait pas loin d'ici. Voilà une histoire vécue, pas par moi, mais dont je suis sûr de l'histoire. Alors, évidemment, tout était bon pour nous, en tant que résistants, pour faire des trucs de ce genre. Évidemment, les armes, on en a eu très tard. D'ailleurs, au moment de la libération, il faut dire que Barbie et ses collègues avaient pas mal fonctionné. Hein. Alors, la résistance était pas mal esquintée. Hein. Pas mal esquintée. Mon copain avait été disparu, on n'a jamais retrouvé son corps. Mais par contre, le dénonciateur, lui, il y a un des membres du, c'est pas moi, mais enfin, des membres du réseau qu'il a exécuté même sur son lit d'hôpital, parce que le premier qui est allé pour la battre, comme il y avait ordre de la battre, il l'a loupé, c'est la première fois qu'il tirait avec un revolver, il l'a loupé, il lui a collé une balle dans la cuisse, alors il s'est trouvé à l'hôpital, et il y en a un autre plus assuré qui est allé le descendre sur son lit d'hôpital. C'était mérité. Voilà où on en était réduit, hein, quand même. Hein. C'est vous dire que c'était pas la joie, c'était pas de la rigolade, et c'était comme ça.
Alors, est-ce que vous pouvez dire aux élèves un petit peu, ça veut dire quoi résister quand on n'a pas d'armes, justement ? Parce que armes, vous allez en avoir tard, voire des fois vous n'allez pas en avoir.
Oui,
ça veut dire quoi résister ?
Résister, c'est d'abord dans la tête que ça se tient. Il fallait penser autrement que tout ce qu'on nous serinait par la radio, par les discours, par le pétinisme, les conneries qu'on entendait, Jean-Philippe Mario et tout ça.
C'est important. Parce que aujourd'hui, où on est assailli par des informations de toutes sortes, hein, résister, ça voulait dire ne pas suivre la voie normale. Voilà. Hein. Aujourd'hui, on a tendance à penser à la France, on pense à la démocratie, par exemple, on ne pense pas que la démocratie, c'est une chose qui s'améliore. Hein. On aurait un bon mouvement. Bon, ça veut dire penser différemment, résister.
Oui.
Or, je crois qu'il est impératif de penser différemment.
Oui, parce qu'il
y a trop tendance à enseigner des choses plutôt qu'à apprendre à avoir sa propre autonomie. Et je crois que, enfin, moi, ce que j'ai envie de vous dire quelque chose, c'est ça. Hein. Essayez d'acquérir votre autonomie de pensée.
L'esprit critique, quoi. C'est surtout ça.
Oui. Et quelles sont les actions que vous avez faites en tant que résistant ?
Pardon ?
Les actions que vous avez faites en tant que résistant, justement.
Ce que j'ai fait, moi ? C'est à moi que vous demandez les actions que j'ai faites ?
Oui.
J'en ai fait un peu partout. C'est très divers. Faire passer des tracts anti-Pétain, anti-Allemand, dans la fac, dans les amphithéâtres, j'ai fait ça. Dans les boîtes aux lettres, j'en ai moins fait, mais enfin j'en ai fait aussi. Et puis, on a eu très tôt à Bosson, là-bas, le stock d'explosifs du département, qui était caché dans les caves de la brasserie régionale qui était à l'époque à la place de la poste actuelle, la grande poste de Bourg. Le propriétaire était un ami de mon frère qui un jour a été arrêté sur dénonciation, et c'était pas encore Barbie qui était à la Gestapo de Lyon. Il a été emmené à Lyon. Or il a fait l'imbécile, puis surtout qu'il avait 5 enfants. Alors il dit, mais moi, résister, mais j'ai 5 enfants, vous vous rendez compte, moi, résister, mais c'est pas possible, mais vive Pétain, vous voyez ce qu'il fait pour la jeunesse et tout. Alors, il a fait l'imbécile tant qu'il a pu, et puis finalement, c'était une dénonciation, les Allemands l'ont cru, puis c'était un fils de très bonne famille de Bourg, bien connu, des gens très honorables, assez riches, et ils l'ont lâché. Alors, il rencontre mon frère, puis un jour, il lui dit, tu sais, j'ai quand même plusieurs centaines de kilos de plastique dans ma brasserie, là. Si jamais ils viennent fouiller, mon vieux, j'y passe, hein. Alors, mon frère dit, bon, amène chez moi, il y a une petite grotte pas loin, on va tout coller ça là-bas dedans, puis alors moi, je vais faire le dispatching avec le vélo, puis le sac à tyrolien, il en a distribué dans tous les coins autour de Neuville. Là où il y avait des résistants, et c'est comme ça que ça s'est passé. Alors à ce sujet, je vais vous raconter une histoire qui va vous faire rigoler. Un jour, je l'aidais bien entendu, chaque fois que je venais de Lyon, tous les 15 jours, aussi pour le ravitaillement, mais aussi pour s'occuper de ça, il me dit, tu prépares une valise, il faut 5 kilos de plastique, les détonateurs, le cordon Big Four, les déclencheurs, enfin tout ce qu'il faut, tu mets ça dans ta valise, dans une valise, et tu donnes ça au car, parce que ma femme va prendre le car qui passait devant la maison, pour aller à Bourg, où c'était long, puis c'était un car qui n'allait pas vite, mais enfin il fallait 1h30 pour faire le trajet, ou qui demande 25 minutes maintenant. Là-bas, il y aura le mot d'ordre, il donne le mot d'ordre à sa femme, et le mot de passe, et on viendra lui donner le mot de passe, et elle fera signe, désignera la valise. Bon, alors ça va, mais le chauffeur monte la valise en haut du car, parce que les cars étaient toujours bondés, il n'y avait pas de la place pour les bagages. Alors bon, là, à l'arrivée à Bourg, c'était rue Charles Robin au coin, là-bas, du boulevard de Brou, il y avait un bistrot au coin. Et là, on descend les valises. Ma belle sœur attend un moment avec la valise au pied. Elle était morte de peur. Mais enfin, elle a fait son boulot. Personne n'est venu au bout de 10 minutes, un quart d'heure, si je peux passer là à piquer. Et elle a fait rentrer la valise dans le bistrot. Elle y était toujours quand elle est partie. Le chauffeur a remonté la valise en haut. Elle a redescendu devant la maison familiale. Et puis voilà, et puis arrivé, elle dit, oh là là, ben, quelle journée elle m'a fait passer, hein. Elle était folle contre son mari et contre moi, et de peur qu'elle a eue. Et alors, bon, moi j'étais reparti à Lyon, 15 jours après je reviens, ma mère dit donc, cette valise dans le coin, là, ça sent pas bon, hein, parce que le plastique a une odeur, hein, c'est bien caractéristique. Alors, je dis, attends, j'emmène dans ma chambre, j'ouvre la valise, vous savez ce que je vois, au fond du couvercle, Jacques Payot, lycée Lalande, numéro 44. Ma mère avait écrit ça pour que ma valise au lycée, j'étais interne, ne se mélange pas avec celle des copains, et que je retrouve ma valise. Vous voyez les conneries qu'on peut faire, l'intention. La valise aurait été traînée dans n'importe où. J'avais mon nom, j'étais bien signalé, là. On pouvait venir m'arrêter tranquillement. Voilà, des conneries comme ça, comme je disais.
Je vais rien répondre. Moi, la question a été posée tout à l'heure. Le 5 juin 1944, c'est le jour du bac pour nous. C'est le dernier jour du bac. Et le matin, on est en planche en fion. Et là, on a entendu de dire une mitraillette à proximité. Un tir de rire assez intense d'hiver. Ça a duré pas très longtemps, puis ça s'est arrêté. On a continué à travailler. On est sorti à midi, on a mangé, et en sortant, après à une heure et demie, on était dans la cour d'honneur, et un de mes camarades de premier vient me trouver. Il me dit, je viens de la part de Jean Marinet, qui était mon chef de trentaine, et ce matin, ils ont eu un accrochage avec la milice. Un de nos camarades, René Guettet, a été fait prisonnier, blessé, fait prisonnier. Compte tenu de ce que c'est la milice, il parlera sans doute. Oui, ce que vous devez faire. Alors moi j'ai mis ma sixaine, puisque je suis la sienne, et je vais me poser le problème. Alors bon, ce que tu veux, ce n'est pas cette dernière épreuve du bac, c'est commencé. Il y en a un qui a fini de partir, je passe le bac, ils n'auront pas le temps. Bref, il y en a un autre qui a décidé. Et finalement, on a décidé de terminer. Alors, on est rentré donc, pour l'épreuve de match, dernière épreuve. Et vers 4 heures, à peine 4 heures, on a commencé à entendre quelques tirs de mitraillette. Au bout d'un moment, on s'est levé, on a failli partir. Donc, je passe. Et au bout d'un moment, un milicien fait irruption dans la salle et nous a sorti brutalement. Et on s'est retrouvé dans la cour d'honneur. Vous avez la cour d'honneur, l'entrée ici. Je ne fais pas très bien. Alors ici, il y avait élèves. Et prof, ici, il y avait le général D'Agostini, avec les officiers et les miliciens qui patrouillaient partout. Alors on annonce, on demande, Fickel. Moi je me présente, j'étais là, donc c'est celle-là. Je viens me présenter ici, je suis à coup de pied, au point. Bon, je tombe, bref. Et puis, on nous envoie, on m'envoie rejoindre mes camarades, ici, face au mur, avec un fusil mitrailleur. Dans le dos. On était arrêté. Alors, ça, c'est quelque chose de brutal. Quand vous êtes dans l'action, qu'il y a des choses qui font peur, mais que vous bougez, ça va. Mais quand vous vous retrouvez immobilisé et que vous prenez conscience de ce que c'est fini, votre liberté est terminée, qu'on vient de vous promettre la cour martiale et que vous ne pouvez rien faire. Moi, j'avais une jambe qui tremblait comme ça. Alors, je passais de l'un sur l'autre, ça. Voilà, l'arrestation brutale. Alors, bon, évidemment, ça s'est suivi. Ça a mis une suite. On nous a emmené fouiller nos affaires. On nous a, dans mes affaires, au dortoir, il y avait une table de nuit avec un pantalon pliante. Et dans ce pantalon, il y avait une notice de maniement de fusil mitrailleur. J'insiste parce que ça va être important pour la suite. On faisait du maniement d'armes pendant l'année. Mais là, on m'avait confié donc, cette notice parce que je savais que le fusil mitrailleur était une arme redoutable. Alors, bon, le milicien arrive, fouille comme ça, il sent rien. Et il me dit au soupir, il cherchait une arme. Alors bon, il a tout bousculé, il n'a pas trouvé d'arme, il a passé au lit des camarades. Ils n'ont rien trouvé, ils sont allés fouiller notre casier d'études. Ils ont trouvé des plans, mais qui n'étaient pas annotés. On a reçu quelques coups, bien entendu, chaque fois. Bon. Et puis on nous a emmenés à Saint-Amour, au quartier général de la milice, pour interrogatoire. Alors bon, interrogatoire, je vous en parlais rapidement. Moi, je parle du mien. Il y a deux miliciens qui vous, deux personnes qui vous tiennent, ils les voient retourner dans le dos, et puis deux autres qui portent devant qui vous frappent.
Alors, on vous pose des questions auxquelles il faut répondre tant que possible, mais bon, auxquelles vous n'avez pas envie de répondre. Hein. Nous, j'avais eu le temps de dire, tiens, mes camarades, de proposer un système de défense, puisque le Jean-Marie, le camarade Jean-Marie, avait été identifié, on pouvait donc chercher Jean-Marie. Alors, notre système de défense était, nous avons Jean-Marie, qui est un excellent ami, et il nous a demandé de temps en temps de distribuer des journaux. Alors, évidemment, on l'a fait parce que c'était un meilleur copain. Bon, évidemment, c'est un petit rabâcheux, mais ça tient de vous. Hein? Alors, on a réussi à faire rester vos questions. Et bon, l'interrogation a duré comme un moment. Hein. Il y a un moment où le général D'Agostini, pour ce qui me concerne, a fait écarter un rideau, derrière le rideau, il y a notre camarade Roger qui était étendu avec sa main dans l'épaule. Je me dis, D'Agostini m'a dit, est-ce que Figuev s'est porté à distance? Roger était touché, j'ai dit oui, bien entendu, pas de choses. Et puis là-dessus, j'ai interrogé trois portions encore un moment, et puis il s'est arrêté. Alors bon, on nous a enfermés dans les caves de l'eau, ce qui était l'Europe. Hein. Vous me comprenez, parce que je ne parle pas très bien. Quelques jours après, on me sort de ma cellule et on me conduit dans un bureau où était un capitaine qui vient de Witte avec deux trois miliciens. Alors, de Witte me dit, Figuev, tu étais au courant du département. On est arrivé 5 juin, je rappelle que le département a eu lieu le lendemain, 6 juin. Tu étais au courant du département. Alors il bande une feuille, il dit « j'ai ramené la preuve ». Et il tenait, c'est un devoir d'anglais, que je vois pas comment, oui, un devoir d'anglais, dont le titre était « Débarquement anglais sur les côtes de France ». Ça, évidemment, c'était pas du tout la relation qui s'était passée. La veille, c'était, je me rappelle à quelle époque ça s'est passé, peut-être que c'était des anglais. Enfin, bref, les anglais, ils sont débarqués un jour sur les côtes. Mais notre prof avait gentiment trouvé ce texte, il avait trouvé que c'était bien de nous faire traduire, ça manifestait, il n'était pas résistant, mais ça manifestait qu'il aurait bien aimé. Bon, enfin bref, et le capitaine de Vitin était persuadé que c'est un texte crypté. Alors il a voulu me le faire avouer, bon, mais c'était comme un interrogatoire classique, hein, des foules, ça. Ça, c'est une chose. Mais, vous comprenez que le devoir d'anglais, il l'a eu en main, parce que l'aumônier du lycée, très gentiment, avait pensé qu'on avait froid. Vous savez, froid, on avait porté des vêtements, mais il ne les avait pas fouillés. Or, je le redoutais bien entendu, comme ça porte mon pantalon. Si on porte mon pantalon, il l'aurait fouillé. Et vous savez, j'ai vécu pendant 10 jours des moments où j'ai connu une solitude qui est restée chez moi. Définitivement. Je ne pouvais rien dire à personne. Je ne pouvais pas me confier à mes camarades, ni à qui que ce soit. J'étais obligé d'attendre. Et quand on m'a appelé pour un autre interrogatoire, pour d'autres choses, etc., chaque fois, c'est une attitude mortelle. Il est certain que si on avait retrouvé cette notice, mon cas aurait été très grave. Bon, on l'a pas retrouvé. Et quand, à la suite de ça, nous avons en Allemagne, je ne vous cache pas que j'ai moi, poussé un soupir en me disant, bon, cette fois, il sort d'un petit signe. Mais on a l'occasion, au cours de cette période, d'avoir peur. Cette peur-là, elle était pour moi particulièrement intense. Et la solitude, c'est encore une fois, certainement une des choses qui m'a le plus marqué de toute ma toute cette période. Alors, sur n'importe quoi, et puis, je ne sais pas si je peux vous en parler. Bon, dites-moi si vous avez des questions à poser.
Par rapport à la déportation,
alors, la déportation, nous, on a été déportés en Allemagne, oui, mais dans un camp de représailles. Les miliciens avaient arrêté. Donc, les fonctionnements du BAC, Ça veut soulever encore moins si on est moi. Et les personnalités politiques du département ont insisté, ont obtenu qu'on soit pas traduit en commercial, et on a nous a envoyé en Allemagne. En Allemagne, ou dans un canton précédent, hein, qui était situé et en Haute-Silésie. J'avais cru qu'il y avait un truc préfacé, non?
Non, mais... Ah, pardon.
En Haute-Silésie, la Haute-Silésie, vous savez un peu où ça se trouve. Vous avez la Pologne, je dessine très rapidement, hein. L'URSS ici, la Pologne ici, la Roumanie, ici, en dessous là, la Slovaquie, avec l'Autriche dessous, et ici l'Allemagne. Bon, la mer du Nord étant là. Hein. Bon, là, donc, la Pologne. Nous étions ici, dans le sud-ouest de la Pologne, à proximité de Portelin de Cracovie, à 130 km de Cracovie, une basse mouillée, l'autre ici. On est employé dans une usine de pétrochimie importante, puisqu'elle a été bombardée 16 fois dans la présence. Là, on était astreint au travail. On se rabat au début 7 jours sur 7. Hein. Puis ensuite, au bout de 15 jours, 3 semaines, 6 jours sur 7. Moi, je travaillais de nuit, il fallait partir à 5 heures, hein, marcher 1 heure, hein, travailler de 6 heures à minuit, retravailler, enfin une pause d'une demi-heure, hein, retravailler de minuit et demi à 6 heures, et rentrer à 7 heures. Et à midi, on avait le repas unique à prendre au camp. C'était dur. Hein. Notre travail pouvait être très différent. La première fois, le premier travail que j'ai fait était exténuant, j'étais quelqu'un dans le lit en costaud, et je me suis dit que le deuxième jour, je ne pourrais pas travailler. Et heureusement, il y a eu un bombardement ce jour-là, et comme l'éclairage a été supprimé, pas de lumière, hein, je n'ai pas travaillé la nuit, ça m'a permis de récupérer, et de reprendre, ça, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Bon, alors par la suite, le travail était également dur, et pour donner une idée, la planque que j'avais finalement trouvée à la fin était de charger du sable dans des wagonnets. Et on cherchait à peu près 16 à 18 mètres cubes de sable par nuit, c'est-à-dire 45 tonnes environ. Bon. Alors, bon, j'ai une bonne technique du coup de peine. Mais au bout de 3 mois, quand on a votre âge, on ne peut plus. On s'habitue à une nourriture très limitée, avec quelques kilos moins. On s'habitue même au travail. Et au bout de 3-4 mois, je venais suffisamment récupéré pour envisager une solution. La solution que j'avais envisagée, c'était de m'évader. De m'évader depuis la Pologne, traverser la Slovaquie, traverser l'Autriche, éventuellement l'Italie pour arriver en France. Bon. Bref, je pensais que je serais très résistant, que je craignais pas le froid ni la neige. Hein, et bon, et alors, mais on m'a promis des papiers d'identité. Un copain, je me suis dit, moi j'ai une filière pour avoir des faux papiers d'identité. J'ai attendu un peu, et je suis venu mettre avec un copain. J'avais demandé autour de moi, j'avais trouvé personne. J'en ai trouvé un quand même. C'était un truand, un vrai, authentique, un voyou. J'en ai eu la preuve par la suite. Il était dur. Il y avait, dans ce camp de repassage, beaucoup de personnes qui avaient été arrêtées de toutes les sortes. Et y compris une descente de police, sans doute, dans les bas quartiers parisiens. Et là, il y avait donc un gars qui était de ma taille, qui était très respecté par tous, hein, qui savait se battre très bien. Et en qui j'avais une confiance absolue. Ça a réformé pas mal de mes idées. Hein. Et bon, il était d'accord pour partir avec moi. Mais il s'est rendu coupable. Oui, d'un sabotage. Hein. Pas très important, mais sabotage quand même, pris par les Allemands. Et il était envoyé dans un camp voisin, qui était un commando d'Auschwitz. Notre situation n'était pas enviable, mais Auschwitz, c'était autre chose. Et quand il est rentré, il était effectivement vraiment délabré, au bout d'un mois. Alors, je lui ai demandé s'il voulait partir, s'il est toujours d'accord, il me dit oui, mais il faut le temps de me retaper. Alors, ça, c'était en novembre. Moi, je me suis dit que j'en avais assez, je me sentais un peu ridicule d'être prêt à m'évader, Alors, j'ai décidé de ne plus aller travailler. Et je suis venu clandestin. Bon, évidemment, c'était là aussi pas très intelligent de ma part, parce que je risquais énormément. Alors, il a fallu que je me cache, change de bureau, etc. Je passe les détails. Et au bout d'un mois, c'est-à-dire, ça c'était fin novembre, hein, au bout d'un mois, c'est-à-dire quand on est arrivé, je me disais que, effectivement, mon choix était un peu ridicule, et j'aurais mieux fait de continuer à travailler avec les autres. Bon, je ne l'ai pas fait. Heureusement, les Russes ont eu la bonne idée d'attaquer début janvier, et j'ai pu lancer mon plan et décider de partir du côté de l'Est. Et. Et nous sommes partis donc du côté de l'Est pour une série d'aventures où notre vie est en danger.
Je me permets de t'interrompre, Pierre. S'il y en a qui veulent partir maintenant, parce qu'ils ont un bus ou quelque chose, qu'ils y aillent. Les autres, ils peuvent rester ici avec M. Figuet et M. Payou. Moi, j'ai des élèves, je vais les prendre dans une autre salle à côté. Donc, vous voyez ce que vous voulez faire.
Comme vous voulez.
Une heure, ça peut juste passer.
Oui.
Au revoir.
Au revoir,
merci.
Au revoir.
Au camp.
Oui. Oh, bon, c'est une plein temps, c'est
con.
Au revoir. S'il y en a qui veulent, on peut encore leur raconter quelque chose. Je veux dire, moi,
c'est la fin de la période de commission.
Vous voulez qu'on le raconte.
Et
vous,
effectivement, vous êtes tout près de l'île de France. Ça s'est pas suffi. Oui. À l'heure de l'île de France.
Alors, comment ça s'est passé?
Il faut un peu de temps pour que
tout ça.
Mais n'hésitez pas, vous allez savoir, de toute façon, Claude, par écrit, par mer.
Et puis c'est vrai que par rapport à la résistance, on avait parlé
de
à Lyon. Mais les arrière-grands-parents, en fait, avec des amis de l'institution, aussi au niveau de la Côte d'Or. C'est vrai que c'est intéressant, ça nous a été intéressant de rencontrer.
Soigneusement tenu secret vis-à-vis du démonstrateur.
Elles sont toutes différentes. Oui, mais n'hésitez pas à vous en faire d'autres. Vous le faites par téléphone, par mail, par lettre. Moi, je suis ici deux fois par an, 15 jours pour moi. Et à cette époque, évidemment, je peux vous rencontrer.
Jamais.
Vous le souhaiterez.
Enfin,
c'est vrai, quoi. Mais je pense qu'il a été martyrisé pour parler et qu'il ne l'a pas fait. Il a dû être martyrisé à mort. Mais ça me torture de chaque fois que je pense que c'est une... Oh, je ne peux pas arriver à supprimer ça de ma tête. Et puis alors, donc à Lyon, ça s'est terminé à peu près au moment du débarquement, où rien ne s'est passé à Lyon. Il y avait la résistance d'ailleurs a été complètement détraquée. Il ne s'est rien passé à partir du débarquement. Personne n'a pu empêcher les Allemands de faire sauter les ponts.
Oui.
Alors, comme on a vu que rien ne se passait, moi je savais que dans là, ça marchait, qu'il y avait le maquis qui était déjà important. Et on a eu l'ordre de... Les armes escrètes ont eu l'ordre de prendre leurs armes et de se joindre aux maquisards sous le commandement de Roman Petit pour être un milieu de résistance capable d'assurer au moment du débarquement, c'était dans les idées des états-majors, d'assurer la possibilité à des avions porteurs de faire une tête de pont dans le maquis, de parachuter des hommes, faire des parachutages d'hommes. Et il fallait tenir 24-48 heures face aux Allemands. Et on avait donc barré un évite sur un, on avait creusé des tranchées, on avait mis des armes en travers,
Et puis alors, on avait disposé des postes de tir, les seules armes que les Allemands craignaient un peu et qui étaient un peu efficaces, c'était les fusils mitrailleurs. On en avait un pour 10, à peu près, 10 ou 12. C'était pas beaucoup, mais enfin, puis enfin on avait quelques fusils à tir individuel qui étaient aussi beaucoup plus efficaces d'assez loin que les mitraillettes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce dispositif, à partir de, donc, du débarquement, a tenu jusqu'au 11 juillet, où les Allemands ont rassemblé tant bien que mal quelques troupes pour nous attaquer. Et quelques troupes, à Neuville-sur-Ain, on était 120 à peu près pour défendre l'entrée du pont de Neuville. Parce qu'il fallait qu'ils passent par le pont de Neuville. Ils auraient pu passer par la route Pont-Berrieux, mais après ça, ils ont peur de passer sous les rochers, je crois, qui longent la route sur 2 km à partir de Schnavel, je ne sais pas si vous connaissez ce coin, enfin sur la route de Jugerieux, de Saint-Jean-Vieux, de Jugerieux. Et donc, on a abattu sur cette route un arbre gigantesque qui était, dont le tronc faisait plus d'un mètre vingt de diamètre à la base et se divisait en deux à partir de 5 ou 6 mètres, ce qui nous a fait une espèce de tranchée où on a pu mettre en fusil mitrailleur face à la ligne droite qui était en face. Et on était une douzaine là, à garder ce coin. Parmi ces 12, il y avait mes copains étudiants. Attendez, on était 5 ou 6 étudiants. Il y avait 3 étudiants en médecine, 3 de dentaire, et puis un technicien, un étudiant en sciences techniques. Et puis les autres, c'était des gens du coin, on avait un mitron, on avait des paysans, on avait 3 Espagnols aussi, qui étaient issus de l'armée en déroute républicaine, vous savez, en 1939, qui étaient des réfugiés en France, et c'était un peu répandu dans la campagne. Il y en a qui ont fait souche, moi j'en ai un que j'ai soigné après quand j'ai été installé. J'ai dit d'abord, je l'ai retrouvé, ce pauvre gars, et il était pas bien riche, et je l'ai soigné gratuitement, il était bien longtemps, et maintenant il est mort, c'était un type épatant. Et il s'est marié avec une Française, il a fait souche, je ne sais pas même s'il a fait souche, j'en sais rien. Il a disparu complètement de ma vue. C'est dommage. On faisait comme ça. Et puis, il y avait donc ces 3 Espagnols. Et puis, de 3 ou 4 autres Français qui ont aussi été éclatés dans tous les sens. Et là, on est resté jusqu'au 11 juillet, depuis le 6 juin. Et le 11 juillet, donc, les Allemands ont réuni quelques troupes à Bourg. On savait qu'on était en alerte longtemps. On avait dit, ils sont là, il y a du monde, on va peut-être bien être attaqué. Puis on savait pas. Puis finalement, on savait, les renseignements n'arrivaient pas bien. Et on ne savait pas ce qui allait se passer. Et le jour où on s'y attendait le moins, heureusement, il y avait un poste de guet tenu par les enfants de troupes qu'on avait armés. Avec la reste de Neuville, parce que nous, on avait eu un parachutage sur notre terrain prévu d'avance, mais un de nos membres, en braconnant ou en allant aux champignons, je ne sais pas, mais enfin, il braconnait aussi un peu, c'était interdit, mais enfin, il fallait bien vivre. C'était un cultivateur, et il a trouvé des parachutes. Un parachute d'armes qui était tombé entre Saint-Martin-du-Mont et Neuville, dans la forêt. Alors on a alerté toute la bande, et on a récupéré ces armes qu'on a cachées. Ça s'était passé dans le printemps-hiver 43-44, et on les a cachés dans la salle des fêtes de Neuville-sur-Ain, sous la scène, une scène de théâtre, sous les tréteaux, là, on a allongé des conteneurs d'armes, qui nous a permis d'armer les enfants de troupes de l'école d'Autun qui ont voulu se joindre à nous avant le 6 juin, oui, c'était au mois de mars 1944, ils sont sauvés de l'école des enfants de troupes, en laissant la plupart de leurs officiers instructeurs sur place, ces braves gens qui voulaient pas, qui avaient juré fidélité à Prétin, n'ont pas voulu se joindre à nous. Puis ils auraient voulu qu'on les mette probablement officiers, mais ça ne marchait pas tellement, les officiers d'active avec des résistants qui étaient un peu pas éduqués pour être obéissants à l'armée, les formalités de l'armée, tout ça, ça les choquait un peu. Et ils sont restés à attendre les Allemands le 11 juillet 1944. Les Allemands sont rentrés dans le camp et puis ils les ont fusillés. Et voilà, le hasard, c'était fait. Ces pauvres types sont morts pour rien. Alors voilà comment ça s'est passé. Et donc le 11 juillet 1944, ces Allemands sur Neuville sont arrivés. Bon, ils étaient plus d'un millier. On avait compté 140 véhicules depuis le poste d'observation qui était au château de Schnavel. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit. Quand vous débouchez sur la route depuis Pondin pour aller sur Neuville-sur-Ain, un virage qui est sur la gauche à la sortie du hameau de Doucia, qui appartient à Pondin, vous voyez juste en face un château assez blanc, dont vous voyez les tours, vous voyez très bien, et c'est le château de Schnavel. On avait mis là, à côté, un poste d'observation qui a détecté l'arrivée des 145 véhicules, c'était des véhicules la plupart réquisitionnés par les Allemands, qui amenaient de l'artillerie, des mortiers, des épouvantables, ça c'était atroce, et des types armés autrement mieux que nous. Enfin, on a quand même tenu jusqu'à midi. Il a fallu qu'ils comblent un fossé tout de suite après le pont de Neuville pour pouvoir passer leur véhicule. Il y avait une automitrailleuse qui a tué un ou deux de nos hommes, notamment un des enfants de troupe là, qui a voulu l'attaquer au bazooka. On avait reçu des bazookas. Les bazookas, c'était des tuyaux de poils rudimentaires et qui étaient d'une imprécision totale. Évidemment, il a loupé l'automitrailleuse, mais la mitrailleuse du blindé ne l'a pas loupé. Il a été blessé très sérieusement, immobilisé sur place. Mon frère était à côté avec son camarade, ils l'ont retiré dans le bois. Il y avait ce qu'on appelle un grangeon dans ces coins, un petit bâtiment, un tout petit pour abriter les travailleurs qui sont assez loin de chez eux quand ils travaillent dans les champs. Ils l'ont laissé là avec une bouteille d'eau, je crois, et tout. Et mon frère a prévenu deux jours après qu'il fallait aller chercher ce blessé. Ils l'ont blessé plus de deux jours avant qu'on puisse venir le chercher. Personne n'en savait rien parce que après on avait des fesses, les Allemands aux fesses. On s'est retiré sur le Cerdon. Enfin, on n'est pas allé passer par Cerdon. On a tourné par le petit pays qui est, on prend une petite route à droite de la route qui monte le Cerdon habituellement, la route nationale. Il y a une petite route qui monte au col de Moratier, je ne sais pas si vous connaissez ce coin, cascade de la Fouge sur le parcours. D'ailleurs, si vous connaissez ce coin, c'est splendide. Et alors on est monté à ce col, et puis on était cons. Là, les Allemands n'y sont jamais venus. Et mon frère a voulu absolument redescendre, mais il était cinglé, mon frère. Il dit, tu vas aller chercher dans ton ancien logement, là-bas, de la route où on avait l'arché de barrage, tu vas aller chercher, tu as deux vélos, on était trois, un cousin qui était avec nous, et puis mon frère, avec deux vélos, il y avait un vélo de femme et un vélo d'homme, le vélo d'homme, on est monté de dessus, et on est allé prendre le train à Ambérieu. Oh, c'était fou, hein. À Ambérieu pour redescendre sur Lyon, parce qu'il disait, tu connais tout à Lyon, on va bien arriver à faire quelque chose, à trouver des vrais papiers, parce qu'on avait des cartes d'identité, c'était tellement moche qu'on était sûr d'être arrêté si on avait dû les présenter. Moi, j'étais un petit peu aussi dans le vague, hein. J'aurais dû refuser, et puis mon cousin aussi. Mais enfin, on est allé. Et je vais vous raconter la chance, mais j'ai eu de la chance, mais c'est fantastique. On arrive à la gare d'Ambérieu. Le type lui dit, oh, vous n'avez pas de chance, le train vient de partir il y a 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Le seul train qui descendait à Lyon, vous n'avez pas de chance. Ben si, on a eu de la chance. Parce que arrivé à côté de, je ne sais pas si vous connaissez cette voie ferrée, qui longe le parc de la Tête d'Or, avant d'arriver à Brotteau. Parce qu'avant, il y avait la gare des Brotteau, c'est là, il n'y avait pas la gare de Pardieu, c'est là que les trains s'arrêtaient, tout de suite après. Et on a donc été arrêté à côté du parc de la Tête d'Or. Pendant, on attend 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Oh, on dit bon ça, mais après il y a le couvre-feu à Lyon, hein, à 6 heures, on n'a plus le droit de circuler. Alors on a sorti nos vélos qu'on avait fourrés dans le train, parce que c'était un wagon. Finalement, le chef de gare de Lyon, attendez, vous avez encore de la chance. Il y a un wagon avec des travailleurs de la SNCF qui est chargé du gars de la SNCF et qui descend sur Lyon. Alors vous pouvez monter, il y a de la place dans le wagon tant que vous voulez, vous pouvez même mettre vos vélos. C'est ce qu'on avait fait. Alors,
vous déranger. J'ai oublié mon sac de sport.
Alors bon, on descend du train, on saute le talus du parc de la Tête d'Or, on prend les petits trucs qui sont tout de suite à côté. Le premier hôtel qui s'est présenté, on dit on va vite rentrer avant que ce soit le couvre-feu parce qu'on va se faire ramasser. Alors on est rentré dans cet hôtel, le gars a regardé nos cartes d'identité, toutes datées du même jour. J'avais regardé. On se dit qu'est-ce que ça va être. Alors on va se coucher. On était tellement crevés, on a dormi comme des souches. 5 heures du matin, on était réveillés. Et à 6 heures, dès que c'était possible, on est sortis dehors. Le type nous a regardé, il n'a rien dit, bon, parce qu'il devait remplir des fiches, lui. Hein. Alors, il a rempli ses fiches. Une fois qu'on était dehors, on n'avait pas de domicile à Lyon. Moi, j'avais ma chambre, j'ai emmené mes deux copains, mon frère et mon cousin dans ma chambre. Et puis, on a, je ne sais plus ce qu'on a fait, on est retourné faire d'autres cartes d'identité, c'est plus sérieux quand même. Je suis allé en vélo depuis Lyon jusqu'à Manzia. C'est vraiment une bonne tirée. Mais enfin, il y avait des camions allemands qui roulaient pas très vite. On s'accrochait après. C'était « Salut, ha, ha, guten Tag, bien sûr, bien sûr. » C'était rigolo. Hein.
Je vais vous parler donc de la suite. Notre évasion, donc. Alors, l'évasion, ça s'est passé donc en direction du Lacès avec. Quand le camp a été. Il y a eu une certaine orientation, bien entendu. Et quand le camp a été évacué, on s'est caché. Alors, on s'est caché de façon qu'on puisse voir là, ce qui se passait. On a vu les Allemands qui patrouillaient, qui se faisaient partir. On a démarré. Alors, il faisait moins 15 environ, il y avait 40 cm de neige. On a fait partir à travers moi. Et au bout d'une heure, pas toujours dans le froid, c'est dangereux parce qu'on en pense qu'il y a un neige, dessous il y a des branches, on se casse sur le des pieds. On a pensé que de toute façon il fallait qu'on rencontre ou les Russes ou les Allemands et qu'il valait mieux finalement être sur la route, que ce serait pareil. Alors, on est donc venu sur la route. Et il s'est passé à ce moment-là quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. On était sur une route droite de 3 km. On était, à ce moment-là, on devait être 7 ou 8. La route, c'était, il y avait la place pour rouler. Et puis, de coup, on roulait parce que je partais de l'autre. Un bois de hêtre continu et personne. Il n'y avait que nous sur la route, on marchait dans le silence, ouaté, neige. Mais le canon tenait partout, devant, derrière, à droite, à gauche, partout. C'est assez extraordinaire, on était en plein milieu de la guerre, hein, et on était tout seul. Bon, on n'a pas très seul longtemps, on a abouti à un village, qui était en feu. Et on entendait des tirs, bien sûr, sous le temps. Au moment où on est arrivé à ce carrefour, on a vu débarquer deux camions russes. Les soldats ont sauté du camion et ont cherché à la mitraillette. Ils étaient à cette distance, hein, et ils ont foncé sur nous. Moi, je me suis dit, mais on va mourir, mais pourquoi est-ce qu'ils ne tirent pas? ils sont passés entre nous et ils chargeaient en réalité la batterie allemande qui était là, hein, à 300 mètres environ, et qui tirait par-dessus. Alors ils sont partis en courant, bien sûr. On a entendu au bout d'un moment des tirs de mitraillettes assez nourris, et puis la batterie s'est arrêtée. On a assisté en direct en combat. Alors, on est parti évidemment, donc ce coin était donc toujours occupé par les Allemands. On est donc parti dans le nord. On a circulé à l'aventure. On est passé, je crois, seulement un épisode pour aller vite. Il y a un moment où on marchait sur une route, sur un chemin, on débouche dans une clairière. Une clairière parce que les bombes étaient tombées dessus, ça a été un massacre, il y avait des arbres dans tous les sens. Mais il n'y a pas que des arbres. Au bord de la route, il y avait des rangées comme des bûches de bois, des hommes, des soldats, empilés, morts, raidis par le froid, tête beige dans toute la tête d'un côté, dans tous les pieds. Il y en avait des, comme ça, sur 30 mètres, ça recommence un peu plus loin. Les soldats qui étaient dans la cavalière étaient en train d'extraire les corps qui étaient encore. Alors, à ce moment-là, un de nos camarades, qui était un prisonnier de guerre, qui soit avec nous, a rien trouvé de mieux, comme un officier russe passé, de lui poser une question. L'officier nous a regardé, l'a regardé lui, nous a regardé, nous a trouvé suspect à ce président de la et nous a décidé à avancer. Et il nous a conduit dans une maison, un peu plus loin, deux étages, qui était une sorte de quartier général. On est monté au deuxième étage, et là, dans une pièce qui était un peu comme ça, l'entrée étant ici, il a commencé à nous interroger. Mais à nous interroger directement, bon, il peut poser des questions. La question c'était.
Alors, en français ?
Exactement, Nimetz, qui est en russe. Il parlait en russe. Il parlait que russe. Et nous, on nous parlait russe. Évidemment, comme langage de sourd, on ne fait pas mieux. Mais lui, il avait le revolver. Alors, il posait des questions jusqu'au moment où, assez, lui aussi, il a appelé trois de ses collègues. Et lui, il est parti. Alors, ces trois collègues qui étaient deux capitaines ont poursuivi l'interrogatoire de la même façon. Nimetz, qui n'était pas, bon, et ils ont commencé, comme tout interrogatoire, à cogner. Alors, ils ont cogné sur trois de nos camarades étaient ici, là, dans cette partie de pièce. Ils les ont frappés à coups de pied, à coups de poing, à coups de crosse. Il y en avait deux qui étaient par terre, deux officiers qui tapaient dessus. C'était pas brillant comme situation, mais c'est une dramatique au moment où un des officiers qui frappait s'est reculé, il avait une mitraillette, il a armé sa mitraillette. Et compte tenu du nombre de morts qu'il y avait dans le courant, et bien notre vie s'est pas lourd à ce moment-là. Bon, à ce moment-là, on s'est dit que c'est foutu. Moi, j'étais ici, à côté d'une fenêtre, à côté de mon camarade, truand, et on a dit, j'ai dit, ben, il n'y a qu'une solution, elle n'est pas définitive, mais c'est de passer par la fenêtre, c'est-à-dire, en réalité, de par le coup de la fenêtre, de traverser la fenêtre, il n'y a pas de solution. Il fallait se jeter par la fenêtre, c'était seulement une question de survie. On avait deux étages, on tombait deux étages, dessous, il y avait des Russes partout, on n'avait aucune chance, on aurait vécu quelques instants de plus. C'est le moment où vous dites il faut faire quelque chose. Et à ce moment-là, notre lieutenant est sorti et rentré. Et on a bien compris que cette fois, c'était effectivement fini. Mais, il a engueulé ses collègues. Il y en a un qui l'a frappé. Il l'a frappé par le col. Il l'a foutu dehors. Et il a mis dehors aussi deux autres qui étaient des capitaines, alors que lui n'était que lieutenant. Mais on a compris que c'était un lieutenant du NKVD. Et à la suite de ça, notre vie a tenu, je vous assure, à la question de secondes, et peut-être pas de secondes. Eh bien, on a été délivrés, ils nous ont envoyés, on cherchait la commandanture, on a marché 18 heures, donc on avait peut-être marché 18 heures, et on a accepté parce que le président en question, il avait au moins un avantage, il était con, mais il avait un ça, on s'appelle
Ils ont une espèce de truc d'identité, là. Hein. Alors, ils ont montré ça. Il y avait un gars qui parlait français, qui était français. Alors, on a parti. Alors, on a circulé ensuite dans l'Atalanium. Bien sûr, les Russes, chaque fois qu'ils nous voyaient, nous arrêtaient. On a pu le réchapper plusieurs fois, dans des conditions très différentes. Je n'ai pas le temps de raconter tout ça. Et on est rentré dans les Carpates, on est allé jusqu'à l'extrême frontière de l'URSS, et ensuite on est remonté ici à Lublin. Alors à Lublin, on a accepté d'être interné dans des camps, on s'est d'ailleurs habillé en uniforme de l'armée rouge, et bon, on s'est retenu comme quand tous les jours, les Russes, il faut bien le connaître, ils sont attachés aux consignes qu'on leur donne. Quand on se présentait à l'entrée du camp, en voulant sortir, ils disaient non, gentiment. Si on s'approchait, ils braquaient la mitraillette. On savait qu'ils tireraient. Mais par contre, ils étaient prêts à nous dire, ils nous ont parfois dit, là-bas au fond, il y a une brèche dans le mur. Si vous voulez, là-bas, c'est pour mon truc, c'est à vous. Hein? Bon, éventuellement, ils tiraient, mais ils tiraient au-dessus. Bon, on avait l'habitude d'entendre la mitraillette. Bon, enfin bref. On a pu, donc, c'est important, prendre ici un contact étroit avec la population polonaise. Et on a appris beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas et qu'en France, on ne savait pas. Alors, ensuite, on était donc à Lublin, à Bienvenue pour les armées rouges. On nous a envoyés ici en Volhynie. Là, on était aussi dans un camp, pareil. Hein, on sortait du camp. De la même façon. Et d'ici, on nous a dit qu'on allait partir pour Odessa. Mais entre-temps, on avait appris que le régime stalinien, ça comportait le goulag. Moi, mes sentiments étaient à gauche, mais pas stalinien. Et à gauche, il y avait donc en URSS, il y avait donc les blagues qui étaient en général Syrie. Il y avait une autre chemin de fer qui allait en direction de Kiev qui était ici. Et on savait qu'à l'embranchement, si on ne prenait pas l'embranchement pour Vista, on savait que c'était une mauvaise direction. On était prêts à sauter du train. On n'a pas eu à sauter du train. Hein. On nous a conduit à Vista. On est arrivé en décembre, c'était 4 jours. Moi, j'habitais à Mans, près de Yuna. J'étais originaire de là. J'étais jamais sorti de mon trou. Hein. J'étais interne ici pendant 7 ans. Mais à part Bourg, j'étais allé une fois à Lyon, c'est tout. Je ne voyais pas. Mes parents n'avaient pas d'argent. La première mer que j'ai vue, c'est la mer Noire. Et la mer Noire, d'ailleurs. Bon. Alors on a embarqué donc à Odessa. C'était le 27 mai 1945.
C'était une odyssée.
Sur un cargo. Pardon.
C'était une odyssée.
Oui. Sur un cargo australien. Hein. Quand, au bout d'une heure de navigation, le commandant de bord a dit « Nous venons de sortir des eaux territoriales soviétiques. Hein. » On a su qu'on était libre. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Moi, j'étais comme ça depuis 6 mois. Je m'étais évadé depuis 4 mois et demi. Donc, j'étais plus à servir un travail épuisant. J'étais, bon, pas nourri, mais nourri. J'avais un peu plus qu'autre âge, je ne me garde plus. Je me sentais en bonne condition physique. Je pouvais dormir par terre, je pouvais dormir là-dessus, je pouvais dormir partout. J'avais besoin de dormir 2-3 heures, parce que j'avais un entraînement physique considérable. Et j'ai fait une croisière, comme jamais, personne. Maman, je me fais l'entrejeter parce que j'avais ma totale liberté. Même pas le besoin d'aller m'étendre, je dormais n'importe où, pas sur le pont, on n'avait pas le droit, n'importe où. Et j'ai fait, je ne sais pas si vous voyez ce que représente ce périple, mais la mer Noire, et le Bosphore, j'ai vu l'entrée du Bosphore, j'ai vu la mer de Marmara. J'ai vu ici, escale Istanbul. On n'est pas descendu. On n'est pas descendu à l'hôtel. Hein. On est resté sur le bateau. Mais j'ai vu Istanbul, les mosquées d'Istanbul. Istanbul, c'est quand même.
Sainte-Sophie.
Pardon.
Sainte-Sophie.
Sainte-Sophie. Sainte-Sophie. Ensuite, le détroit de Dardanelles. Mon père avait été blessé au Dardanelles. 31 ans. Là, moi, j'avais 20 ans. J'ai eu 20 ans ce jour-là. Ensuite, la mer Égée. On dit compte, la mer Égée. Je ne sais pas si vous connaissez. J'avais... Il y a de l'Odyssée, ça. Hein, voir surgir Lemnos, Lesbos, etc. Les sites de la mer Égée. Moi, j'ai pas sûr. Comme ça, je regardais tous ces. Hein, habité par ces légendes extraordinaires. On a traversé. On a donc traversé la mer Égée. On est allé faire escale à Port Saïd. On a aperçu l'Asie, j'ai aperçu l'Afrique. Moi, putain, je me suis dit ici. Voilà, à Port Saïd, on a fait escale. On a vu des marchands qui disent en bas, nous, on va vendre ce truc, évidemment, on n'a pas d'argent. Si, il y avait des pressions, mais il y a un peu d'argent. Là, on est reparti à travers la Méditerranée, mer calme, mer sud. On a aperçu l'Etna sur une mer de nuages, on ne sait pas. On a traversé ces trois bassines, on a fait escale à Naples, escale à Naples. On a vu
le Vésuve,
on a vu le Vésuve, hein. On a vu Capri, Ischia, hein. On est reparti de Naples, on a passé par le trois de Bonifacio, et on est arrivé à Marseille. On est arrivé à Marseille le 10-6-45. Et on était parti, on avait arrêté le 5-6. On a donc, en un an, fait une odyssée qui a comporté, à la fin, un voyage paradisiaque. D'ailleurs, moi, quand je suis rentré, on se demandait si je n'étais pas parti en législature. J'étais bronzé, moi, 15 jours de mer. J'avais, bon, je sais pas, j'avais repris un poids comptable. J'étais en uniforme d'armée rouge. Oui. Toute apparence de bonne santé, raconter mes histoires, bon, alors, débarquer dans un pays complètement différent de ce qu'on avait quitté. On avait quitté un pays qui était asservi, on retrouvait un pays qui avait retrouvé un nouveau, un ordre nouveau. Il y avait des résistants, moi je pensais connaître pas mal de résistants autour de moi, et on avait des nouveaux.
Il y en avait beaucoup.
Je connaissais pas, hein, oui.
Oui, il y en avait beaucoup.
La résistance, il y avait, bon, c'est surprenant.
Beaucoup plus que jusqu'à il y avait.
Et il y avait. Il y a deux choses qui m'ont choqué quand même. C'est que je rentrais avec la certitude de savoir au moins deux choses. C'est qu'il existait en Pologne un camp qui s'appelait Auschwitz, où on avait exterminé au moins 1 500 000 personnes. Et quand je disais cela autour de moi, eh bien, on se disait, mais ça ne lui a pas réussi le voyage là-bas. Hein. Il va pas très bien. Personne pensait, j'ai vu 150 000, on m'aurait pas cru non plus. Hein. J'en dis 15 000 peut-être. Hein. Et à tel point, vous savez, quand vous savez quelque chose que vous savez, et vous vous heurtez un mur d'incompréhension, ça, hein, c'est très dégoûtant. Et il y avait autre chose. Hein. Je vous ai parlé du goulag. Hein. Bon, je savais ce qu'était le régime soviétique, hein, le régime stalinien. Je connaissais Alexandre Goulag. J'avais des amis communistes. Aucun d'eux ne pouvait admettre que dans le pays rêvé du communisme, il puisse exister un Goulag. Alors, ma réinsertion, moi, tout a été à cette image extrêmement difficile. Mais évidemment, je dois dire qu'un an comme ça, vécu dans des conditions extrêmes, hein, en la compagnie de truands, j'insiste là-dessus, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on dit les truands, oui, mais ils ont leur code. Ils ne sont pas parfaits, bien sûr. Il faut dire aussi que ce type-là aurait été, comme vous et moi, capable de faire les mêmes études. Hein. Bon, mais il avait été livré à la rue, dans la banlieue parisienne, à cette époque. Hein. Et il avait survécu, comme il pouvait, avec ses poings, avec ses armes à lui. Avec, sachant que ce qu'il pouvait faire, c'était prendre ce qui était ailleurs. Vous savez, aujourd'hui, quand vous voyez les salaires faramineux qui sont versés à votre patron, je ne sais pas si vous, ça vous arrive, mais moi, j'ai envie d'aller puiser dans leur caisse. Hein. Bon, ben, lui, il puisait directement. Moi, j'en ai envie, je ne peux pas le faire, je le regrette. Lui, il puisait. Bon, mais c'était aussi une certaine morale. Et alors, je ne vous ai pas dit que... 15 ans après, peut-être, hein,
J'ai lu dans la presse un entrefilet sur France 3. Je m'en rappelle, j'étais à Montauban. Tu lis un. Comment ça s'est rédigé, un truand notoire, hein, Georges Jaconelli, mon copain, a été appréhendé hier par la police. Il est soupçonné d'avoir de raquettes, de mitraillés, je crois. Et ça, c'est aussi une chose que je regrette. J'ai pas osé reprendre contact avec lui. Alors, au début, pas osé, parce que bon, j'avais des enfants, je me disais, bon, si par hasard, moi, il veut me confier quelque chose, je mets en danger mes enfants, ça m'embête. Hein. Et je me suis dégonflé, et je le regrette, et je le regrette toujours.
Ben, c'était sa destinée, lui.
Oui, sans doute, mais moi, je me sens un peu lâche.
Oui, on a tous eu des trucs comme ça.
Bon, voilà, ouais, enfin, je ne sais pas si ça vous intéresse de voir ça. Alors voilà, l'évocation rapide.
Ben oui.
Nous, on aimerait savoir ce que ça évoque pour vous, au-delà de la curiosité. Et on aimerait connaître le regard que vous portez sur cette époque, qui a été aventureuse sans doute. Hein. Mais on aimerait savoir de quelle façon vous transposez ça dans une époque actuelle qui est elle-même instable. Hein. On rentre dans une époque instable. Hein. On ne sait jamais bien d'avance. Nous, on ne savait pas non plus en 1937, 1938. On ne savait pas qu'il y aurait tout ça. Hein.
Ben oui.
Aujourd'hui, c'est sérieux. Et on aimerait, nous, bien connaître votre point de vue.
Moi, sur l'époque, ça reste assez flou, personnellement. Enfin, je connais, je sais ce qu'on nous apprend sur la guerre.
On va te dire heureux que Camus a fait un long voyage et est revenu plein d'usages et raisons, etc.
Vivre entossé par nous
le reste de son âge.
Ça, on pense à ce dernier vers, c'est curieux. On pense à un vers quand on devient quand même très vieux.
Ben,
c'est étonnant. Je l'ai dit souvent, vos camarades. Il y a une chose qui est pérenne, qui est définitive. C'est l'amour filial. En tout moment, en particulier au moment où la mort approche, hein, votre dernière pensée, c'est vos parents. Dernière pensée. Ça se manifeste de façon différente. Hein. Moi, je me rappelle que je me disais « Faites-moi mourir, mais faites pas pleurer ma mère. » Où je voyais des fois dans les cas désespérés, je me disais, bon, mon cercueil va rentrer chez moi, il va en être là. C'était horrible. Alors, ça, oui, c'est une valeur fondamentale. À votre âge, bien sûr, on la connaît, cette valeur-là, mais on sait qu'elle existe, bon, d'accord, hein, mais on n'en soupçonne pas la force, la puissance.
On ne s'en rend pas compte.
Non, non. Ce lien entre parents et enfants-parents, malgré tout.
Et moi, je vois, quand les Boches nous ont attaqués à Neuville, bon, tout le monde savait à Neuville qui était le chef de l'armée secrète, c'était mon frère. Moi, j'étais revenu, on allait prendre la douche chez les parents, on tournait sur le barrage, on cassait un mange, un petit doux, enfin, on était assez bien nourris par l'organisation. L'aide-cuisinier, qui était un demeuré, un pauvre type de Neuville, qui rentrait tous les soirs chez sa maman. Il avait 27 ans. Hein, ou, peut-être pas, il, à l'époque, non, il n'avait pas 27 ans, il devait avoir autour de 20 ans. Et, oui, pas plus. Il n'était pas si vieux que ça. C'était un pêcheur remarquable. Il pêchait la truite d'une façon parfaite. Mais alors, la tête, pas. Alors, on l'avait embauché comme aide-cuisinier dans le chalet du club nautique qui était entre Ponsin et Neuville. Les Allemands ont incendié, c'est tout parti. Alors, parce qu'on y faisait notre cuisine, il y avait de la place, et puis c'était au bord de la route. Et lui savait les grandes marmites, on avait récupéré ça, je ne sais pas où, mais enfin, on avait ce qu'il fallait.
Alors ça, c'est pour... on avait le groupe, moi c'était la Dronnière, les autres c'était la Toupie, un rocher qui a une forme de toupie, là, entre Neuville et Bosson, entre Bonsaint et Bosson. Et ils étaient sur... Ils ont, c'est un poste de fusil mitrailleur qui a tiré 1500 cartouches sur les Boches. Ils n'ont jamais réussi, parce qu'ils avaient le soleil derrière eux, ils ont, les Boches n'ont jamais repéré. Ils ont affrété un vieux zinc qui était à Ambérieu pour essayer de détecter. Alors il y en avait un qui avait coupé une énorme branche de tilleul qui n'est pas très lourd. Et puis chaque fois qu'il entendait l'avion, et c'était un avion pas rapide, tu vois, un vieux truc qui marchait à peine, mais qui avait quand même une mitrailleuse à bord, je sais, ils nous ont tiré dessus. Alors il cachait au passage, il l'entendait venir derrière, ou devant, il le voyait arriver, et derrière il l'entendait, et il mettait sa branche de tilleul, bon, il ne tirait pas pendant un moment, et tout de suite passé, il enlevait, il continuait à tirer. Ils ont tiré 1500 cartouches, on a cassé du monde, ils étaient foudrages, les Allemands, foudrages.
Oh oui, il y a eu des combats. Hein.
Est-ce que vous ressentez de la haine par rapport aux Allemands encore ?
Pardon ?
Est-ce que vous ressentez de la haine par rapport aux Allemands ?
Ben, je vais te raconter. Je viens d'Allemagne. La semaine dernière, on était en Allemagne, à Bad Kreuznach. Ils nous ont gavés. Ils n'ont pas su quoi trouver pour nous faire plaisir, nous emmener ici, nous emmener là. C'était extraordinaire. Et puis, c'est comme ça. On a la côte en Allemagne. Puis, est-ce que c'est ils veulent se faire pardonner de l'occupation? Je ne pense pas. C'est vrai que peut-être un peu quand même. Mais non, franchement, il y a un sentiment francophile à Bad Kreuznach qu'on a senti vraiment. Ils sont venus nous mettre dans nos voitures au moment du départ. Allez, puis tiens, emporte encore ces deux bouteilles de vin. Ils nous ont donné.
Haine entre peuples, c'est dramatique.
C'est
que dramatique. Ouais. Que on en veuille aux dirigeants allemands,
oui.
Que on aille jusqu'à les fusiller. Moi, je suis pas pour la peine de mort, hein. Mais bon, dans le contexte, je trouvais ça normal. On aurait pu faire mieux. Mais que par contre, on nourrisse une haine envers le peuple, même si il avait participé, hein. Précisons-le, parce qu'il y a eu des camps, mais il y a eu surtout les Einsatzgruppen en URSS. C'est absolument épouvantable. Hein. Il y a une foule d'Allemands qui a tué des gens parce qu'ils étaient juifs, hommes, femmes, enfants. Des Allemands, j'allais dire comme vous et moi, hein, des gens qui n'étaient pas spécialement formés à ça. Que dans les camps, il y a eu quelques SS dévoyés qui étaient là pour asservir. Bon, oui, c'est dramatique, mais il y a pire que ça, hein, c'est vrai. C'est pas une raison pour vouloir tout le peuple allemand, hein. Il y a des moments où il faut arrêter. Si on n'avait pas eu le traité de Versailles sur la forme qu'il a eu, hein, c'est-à-dire qui a écrasé l'Allemagne, eh ben on n'aurait pas eu la guerre de 45. Hein. C'est aberrant. On ne punit pas un peuple, on punit des dirigeants, mais malheureusement, enfin, on punit, je dis. Je pense qu'on doit punir les dirigeants, mais on ne punit pas tout un peuple. Alors, autrement dit, moi, les Allemands, bon, il est certain que les premiers temps, je n'avais pas bien envie d'y aller, mais très rapidement, je suis allé, et bon, moi, je suis comme Jacques, j'ai trouvé la chance. Pardon ?
C'est sûrement vous qui avez raison, mais tout le monde ne pense pas comme vous,
non,
des personnes.
Non, non.
Et ça peut se comprendre aussi.
Non, non, c'est vrai. Non, c'est vrai, mais vous comprenez, ça c'est des valeurs, j'allais dire, de citoyenneté. Où on est citoyen, et on est citoyen français, mais en même temps on est quand même un peu citoyen du monde. Hein. Alors, à l'heure actuelle, l'humanité, c'est bon, quelles que soient les idées qu'on a sur la politique globale, hein, on fait partie d'un tout. Si on s'amuse à des idées xénophobes, bon, ben ça va dégénérer. Hein. Il y a déjà un déséquilibre économique, financier et écologique suffisant, faut pas en rajouter.
Mais quand moi je suis allé en Allemagne, tu sais, j'ai raconté que j'étais sorti d'Allemagne deux jours avant la déclaration de guerre. Ça a été d'extrême justesse. Puis comme j'avais 17 ans, bah, je serais probablement resté. Hein. J'aurais été en camp, c'est sûr. Et j'ai eu cette chance. Enfin, moi là-bas, j'étais. Bon, j'avais ma Gretchen, là, qui avait 2-3 ans plus que moi, mais enfin, ça allait bien. C'était une famille où les enfants, c'était la dernière d'une famille de 4 ou 5 enfants. Il y avait deux SS dans les aînés. une fille, une grande sœur qui avait au moins 10 ans de plus, qui avait rencontré au moment de l'exposition de 37 ans à Paris un de mes oncles, le plus jeune de mes oncles, qui était devenu ami avec elle. Et c'était elle qui m'avait envoyé chez ses parents en juillet 39. Et j'ai eu cette chance inouïe, il m'avait trouvé une place sur une péniche, tu vois, ça c'est formidable, tu l'avais raconté, sur une péniche depuis Strasbourg à Duisbourg. Bon, je rentre comme ça, par miracle, parce qu'il n'y avait déjà plus de train pour faire. J'étais sur le pays, c'est le dernier pont allemand sur le Rhin avant la Hollande, Wesel am Rhein, petite ville comme Bourg. Je rentre. Le lendemain, deux, trois ans après la libération, mes parents venaient juste d'emménager une maison, puisque bon, la première chose qu'ils ont fait, c'est de venir incendier la maison. Alors, encore ça, une chance, c'était. Il y a eu des SS ils ont tué un peu partout, hein. des gens n'importe où, ils ont tiré. Nous, on tirait sur eux, ils étaient foudrages, évidemment, ils n'étaient pas tous comme le tien, hein, ou comme le mien. Mais c'était quelque chose. Évidemment, la maison de mes parents, tout le monde savait, Payot, c'était mon frère, c'était lui le chef du coin, dès qu'il avait organisé la défense ici et qui commandait le coin. Alors, c'est un ancien élève officier, et on leur avait cassé du monde. Et alors, tout de suite après, on leur a aidé à reconstruire une maison, évidemment, une maison de 12 pièces, un ancien relais de diligence qui habitait sur une très vieille maison avec des très vieux meubles, des trucs. Il n'y avait pas de prix, tout brûlé. Ils sont arrivés, l'officier allemand, une chance formidable, il parlait français. Et il met son pétard sur le ventre de mon père, tout surpris de trouver mon père, hein, trouver quelqu'un, mon père et ma mère. Mon père n'a jamais voulu quitter sa maison. Hein, jamais. Il dit, mais moi, je ne suis pas allemand, mais qui, je suis chez moi. Alors, mais normalement, il devait avoir ordre de le tuer, hein, c'est sûr, certain. Puis mon père, pour le vieux Gaulois de la guerre de 14, terroriste, je ne suis pas terroriste, mais mes fils sont des combattants français, comme moi j'étais à Verdun, il a dit au l'officier allemand, sur ce ton. L'officier allemand a mis le pétard dans la sacoche. Mais ils ont foutu des plaquettes de phosphore, hein, tout a flambé. Oui. Il y a même, mon mère a vu que ça allait flamber, elle a pris des manteaux qui étaient pendus par là autour, ce qu'elle a pu, elle a mis son bras, mon père était en sabots. Elle est sortie, il y a un homme de troupe qui a repris le fagot, hop, par une fenêtre, il l'a remis dans la maison. Tu vois. Et attends, je vais te dire les différents sentiments des gens. Deux ou trois ans après, il venait de rentrer dans une maison vide. Mon père avait dit, moi j'avais une maison de 12 pièces. Elle était au bord de la route d'accord, il avait le terrain qui était en face, un peu plus reculé par rapport à la route. Évidemment, c'était mieux, mais il n'y avait rien dedans. Et il y avait des meubles de l'époque de sinistrés, tu sais, c'était pas cher. On en a même fourni gratuitement quelques-uns, pas beaucoup. Il y avait une armoire, un lit, et puis une table et quatre chaises. Voilà ce qu'on leur avait donné. Des chaises en bois, et puis tu vois, vraiment le truc à la chaîne. Et alors, l'Allemande que mon oncle avait connue avant la guerre s'est pointée. Alors, vu les ruines qui étaient là, mon père a dit, ben oui, on habitait là-bas. Ah, c'est les Américains qui ont bombardé. Alors mon père lui a dit, c'est pas les Américains, ce sont les Allemands, avec des allumettes, qui lui ont dit. Évidemment, c'était une plaquette de phosphore. Alors on est resté comme ça, elle est partie, on l'a jamais revue.
Vous savez, je vais vous raconter rapidement une anecdote. Ça illustre votre question. Dans les années 65, donc 15-20 ans après la guerre, j'étais en Espagne, sur la côte méditerranéenne. Une côte très dentelée, superbe d'ailleurs, je crois que vous connaissez, près de Barcelone. Enfin, en dessous de Barcelone, au Péninsula. Et je me... Pardon.
Rosas.
Et je me promenais avec ma femme le long de cette côte. Hein, on avait marché assez longtemps, on était à 4-5 km. On arrive dans une petite crique, et cette crique, il y avait un homme seul qui marchait. Alors, bon, il avait l'air de chercher quelque chose, on lui posait la question, c'est un Allemand, il me dit « Oui, je cherche, parce que hier, je suis parti sur mon kayak démontable en mer, hein, et puis il y a eu un orage, hein, la mer déchaînée, j'ai été recueilli par une péniche espagnole qui a pris mon kayak en morque, hein, mais le kayak s'est désintégré, c'est un kayak démontable, et maintenant je recherche un morceau, j'en ai trouvé un certain nombre, hein, et je cherche les autres. » Bon, on cherche avec lui. On marche. Bon, et puis au bout d'un temps, on arrive à sa voiture qui est tout au bout là-bas. Alors, bon, ben, on lui dit, on s'en va. Et il me dit, mais non, écoutez, je vous ai pas venu jusque-là. Je vais, si vous voulez, je vous raccompagne votre camp et de l'autre côté, vous avez au moins 15 km à faire, ou 10 km. Hein, je vous raccompagne. Alors, il fallait faire un grand tour par l'intérieur. Hein. On monte dans la voiture. Dans la voiture, il y avait une jeune fille derrière. Alors on roule un petit moment, et puis tout d'un coup, de but en blanc, il me dit, vous savez, je suis un ancien SS. Bon, hein, comme ça. Moi je me dis, si j'étais seul, j'aurais dit, on arrête, hein, je descends. J'étais avec ma femme, je ne l'ai pas imposé à ma femme, 25 km à pied. Alors j'ai entendu un moment, et puis il poursuit. Mais, moi, je m'appelle Von Prinz, mais ma mère, hein, est australienne. Et vous savez, il s'en est fallu peu que je sois de l'autre côté. Mais j'étais là. Et comme, bon, je suis assez athlétique, je suis rentré dans les jeunesses italiennes tout naturellement. Et c'est vrai, d'ailleurs, à cette époque, c'était comme ça. Alors, quand j'ai eu 16 ans, c'est en 44, hein, au moment du débarquement, j'ai été versé d'office après 3 mois d'instruction dans les FNSS. Et je suis allé me battre contre les Canadiens à Caen. Les Canadiens, c'était une des troupes d'élite. Hein. Voilà ma vie de FNSS. Et vous voyez la jeune fille derrière vous, que je considère comme une enfant, sur ses bonnes paroles. Elle a 18 ans. Moi, j'en ai 16, je combattais comme ça. Elle parle mieux anglais qu'allemand, parce qu'elle vit souvent en Australie. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Rien. J'avais devant moi un Allemand qui avait été effectivement en FNSS, hein, qui avait certainement pas été coupable d'atrocités particulières, il s'était battu. Bon, oui, il avait été un ingénieur terrien, mais encore une fois, il faut voir le contexte. Il ne peut pas faire autrement. Alors, comme quoi, même à un Waffen-SS, eh ben, je me suis trouvé en situation de... Je ne me suis pas trouvé en situation de haine. Hein. Je l'ai quitté comme quelqu'un qui avait combattu dans son armée.
Oui, je n'avais pas fini de te dire, là, le Sam d'esprit là, qui travaillait à la cuisine. Ils l'ont pris parce que... Il renseignait les gens parce qu'ils avaient des amants réquisitionnés pour boucher la tranchée qu'on avait faite. Ils avaient envie de payer les femmes. Parfois, ils ont vu que le travail n'avançait pas. Ils sont allés avec un camion. Ça a été beaucoup plus rapide. Et puis, le jeune, là, il disait, ben, ça, c'est la toupie qui tire. Là, c'est la bonnière. Là, c'est... Alors, oh, mais dis donc, tu connais bien le coin. Toi, tu étais travaillé. Tu étais avec eux. Enfin, bref. Il a dit, il rentrait tous les soirs, c'est sa maman, tu vois, 20 ou 25 ans. Alors, ils l'ont torturé, on l'a retrouvé mort avec des fourchettes plantées dans les yeux, tu vois. L'hôtelière de, qui était au sous-sol, l'hôtel qui donne sur la rivière d'Ain, il était en bas, on était presque folle de l'avoir entendu.
Vous savez, bon, les Allemands, moi j'ai un de mes amis qui distribuait des journaux, que je l'ai lu, c'est passé. Hein. Ah oui, il y en a. C'est le Bézillon, il était massacré. C'est horrible. Enfin, il ne faut quand même pas oublier que nous, Français, hein, on est allés, ce qu'on est allé faire en Algérie, c'est pas de chouette. Hein. Bon, alors, bon, il faut pas, on ne peut pas porter un jugement global non plus. Hein. Il ne faut pas dire les Français d'Algérie ou les soldats qui sont en Algérie. Sont tout, non, mais enfin, il ne faut pas porter un jugement trop définitif. Hein. Il y a des sales barres partout. Et moi, une chose que je dis souvent aux camarades, et que j'ai découvert, hein, parce que je ne m'en rendais pas compte, si moi qui ai des enfants, et puis enfants, hein, auxquels je tiens beaucoup, je suis très attaché, c'est mal, hein, si la vie de mes enfants dépendait des aveux de quelqu'un que j'ai entre mes mains, ben je ferais dire n'importe quoi. Hein. Et ça veut dire quoi, lui faire dire n'importe quoi? Y compris ce qu'il n'a pas fait. Hein. C'est horrible ce que je dis là. Hein. Pourtant, moi, je ne suis pas plus sauvage que vous. Hein. Mais il y a un moment où vous êtes persuadé, on vous persuade que... Bon, je cite un cas extrême, la défense, c'est en France, c'est évidemment le comble, hein, de ce qu'on peut avoir à faire. Mais quand une propagande vous a anesthésié, vous a abordé longtemps, eh bien, vous êtes effectivement conditionné. Pour peu que votre vie soit menacée ou quand vos camarades aient été tués, eh bien, vous en avez là. C'est l'enchaînement de la guerre. Hein. Bon, je parle de la guerre, je ne parle pas d'Auschwitz, hein, je ne parle pas du massacre organisé. Hein, c'est encore une chose différente. Mais bon, il faut admettre, hein, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir est-ce qu'on en veut aux Allemands. Ben oui, moi, voilà ce que je réponds.
Et moi aussi, c'est pareil.
Les soldats étaient les mêmes des deux côtés,
oui,
en fait.
Oui, oui.
On ne peut pas généraliser les grandes exterminations.
Quand je pense qu'on a fait ça en Algérie, moi, ça m'horrifie. Hein, c'est là que j'ai pris conscience.
Quelle est l'image qui vous a le plus marqué, chacun, de la guerre? Si vous devez garder qu'une image qui vous marque.
L'image que...
Ben, l'image ou le moment qui vous a le plus marqué pendant la guerre.
Au moins le moment. Le pire, c'était quand j'attendais pour la notice. Là, c'était l'angoisse, quoi. L'angoisse, puis alors là, complètement ligoté, ficelé. Il suffisait que ça me tombe dessus, puis ça c'est fini, quoi.
Et moi, c'est le coup là où il fouillait les valises, ou une sur deux.
Ouais.
J'ai eu 50 chances sur 100. Bah, j'ai passé du bon côté. Là, il m'a battu sur place.
Hein. Après, toutes les fois que la mort était prête, bon, j'ai connu ça ensemble deux fois. La guerre, qu'est-ce que c'est la guerre? C'est la peur et la mort. Hein. Bon, vous avez la mort tout près, vous avez peur. Bon, même si vous faites une heure éventuellement de courage, encore une fois, hein, le courage, j'en parle ce matin, hein, le courage, l'héroïsme, hein, la connerie, c'est un peu proche. Hein,
oui.
Hein.
Oui.
Alors,
est-ce que, si vous êtes croyant, est-ce que la religion, ça vous a aidé pendant la guerre?
Pardon?
Est-ce que la religion, ça a joué un rôle pendant la guerre pour vous aider à tenir, parce que vous avez vécu des moments difficiles?
Bon, je vais te dire, donner... Une anecdote. J'étais un jour sous un bombardement. J'ai connu plusieurs, les bombardements sont difficiles. Un bombardement, c'est très dur. Hein. 150 forteresses volantes. Ça fait un prix au départ lointain. Ça devient sourd. Ça grandit. Il y a un moment où tout tremble. Hein. La terre tremble. Hein. Et vous entendez qu'ils sont encore pas sur vous. Le bruit continue à grandir. Et vous avez les oreilles comme ça. Et puis, il y a un moment où les avions sont assez proches, où le bombardement commence. Le bombardement, c'est un espèce de sifflement. Bon, vous entendez ça. C'est encore loin. Hein. Puis, il y a un moment où ça devient... Puis, il y a un moment où ça devient... Là, le bombardement est sur vous. Eh bien, moi, je me trouvais un jour dans une clairière. On était quand on est dans un bombardement... On était autorisé à partir dans les bois, parce que sans ça, on sortait le massacre. Hein. Et on était dans une carrière où il y avait trois groupes sous trois arbres, parce que la dessert tirait, il y avait donc des éclats de dessert qui tombaient. Et on avait cinq arbres sous chaque arbre. À côté de nous, on n'avait pas vu, il y avait une grande haie, et derrière cette haie, il y avait une batterie anti-allemande, anti-aérienne allemande, mobile. Et qui s'est mis à tirer. On était bien tombé, hein. Et il tirait. Jusqu'au moment où des avions sont détachés en piqué, ont piqué sur nous, et puis ont lâché leurs bombes, une fois, deux fois, trois fois. Et les bombes tombaient de plus en plus près. Mais alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand vous sentez que le moment approche, qu'il est de plus en plus proche, que les bombes... Et finalement, il y a des bombes qui sont tombées à 15 mètres. Hein, 15 mètres, un trou de 10 mètres de large... à 15 mètres de nous. Hein. L'atmosphère était irrespirable. Il y avait de la poussière, des éclats qui volaient partout. Hein. Eh bien, il y a quelqu'un qui était à genoux, je vais faire votre question, et qui s'est prié, il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Alors moi, qui ne suis pas trop croyant, je me suis dit, Dieu s'en fout. Hein. Mais en même temps, je disais, je vous posais quand même des questions.
Rien
hein. Oui, parce que quand vraiment hein, la mort est là, il y a l'ultime question. L'ultime question, c'est les parents, c'est pas ça, ses parents, hein, et se dire qu'est-ce qui devient. Mais l'ultime question, c'est pas Dieu, c'est les parents.
Hein. J'ai eu la même impression, moi, le 26 mai 44 à Lyon, là, quand ils ont bombardé, les Américains ont bombardé. Ça n'a fait aucun effet sur les voies ferrées françaises, mais l'escalier de parce qu'après, j'ai parti des groupes de. J'étais ambulancier, j'accompagnais une ambulance pour incarner le havre du Berthelot. Il y avait ça, des détritus de toute espèce, de morceaux d'armes, de morceaux de casseroles, de morceaux de mobs, de morceaux. Et puis des blessés, des morts. L'escalier de l'hôtel Dieu, on arrivait avec une femme blessée, le sang dégoulinait de pierre.
Oui, moi, j'en veux cette expression. Vous donnez un sac de trouille avec de grandes oreilles. C'est ça. Vous n'êtes plus rien. Hein. Je suis. Il y a des moments où c'était ça. J'ai vu des gras se jeter par terre, hein, écraser le sol. Hein. C'est...
Ah bah tu voudrais te t'enfiler.
Ah, ah ouais. Et je me suis. Et je résistais. Est-ce que par terre, je ne serais pas mieux protégé? Oui.
J'ai eu une copine qui était. Alors. Statut de sel, bougez pas. On était sur les bas-ports du Rhône parce qu'on ne voulait pas aller rentrer dans les souterrains. J'ai un copain de mon âge qui était dans un abri souterrain qui a été tué dans l'abri. Moi j'étais sur le quai du Rhône à regarder voler les bouches. Puis on a vu, on entendait le vent. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Puis ils ont bombardé, ils étaient à plus de 1000 mètres d'altitude, en formation, pour bombarder une voie ferrée, tu vois, qu'ils ont loupé d'ailleurs. Alors, l'avenue Berthelot, hein, on en a charrié du monde.
Merci beaucoup.
Avec plaisir. Alors, si
et
vous avez.
Et c'était nos libérateurs.
Si vous avez des questions à nous poser, vous demandez à Damien, vous avez notre adresse, que ce soit par mail, par lettre ou par téléphone. N'hésitez pas, ça fait plaisir. N'hésitez pas. Quelles que soient vos questions, qu'elles soient pertinentes ou pertinentes, ou naïves, ou soit, vous posez vos questions. Hein.
Voilà, pour moi.